Vous écoutez France Culture.
Thierry Perret, je vois Antoine Garapon sur les starting blocks.
Non, je refuse les termes du débat. Je crois que la question n'est pas entre l'humanisme ou le réalisme, l'angélisme ou la dureté de la répression. Je crois qu'il y a eu une avancée importante ces derniers mois qui était la conférence de consensus. La conférence de consensus, c'était précisément de réunir du savoir, réunir des connaissances, de l'intelligence autour du phénomène délinquant.
Organisé par le ministre de la Justice.
Des gens qui reflétaient ses propres opinions, puisque le clan d'en face n'était pas invité.
Non, vous ne pouvez pas dire ça.
Le consensus était facile à obtenir dans ces conditions.
Vous ne pouvez pas dire ça. Il y a des gens qui n'ont pas accepté de répondre à l'invitation et c'était présidé par une juge étrangère. Et j'insiste sur l'étranger parce que le phénomène criminel est un phénomène qui affecte toutes les sociétés, et notamment les sociétés démocratiques. Donc, on réfléchit dessus et on a acquis quand même un certain nombre de connaissances. Et parmi ces connaissances, on sait que la récidive, la fameuse récidive, concerne les petits délits. Je n'ai pas le casier judiciaire et le passé judiciaire de cet individu, mais il est très probable qu'il ait été condamné pour des petites choses qui ne méritaient pas une sanction plus sévère. Donc, si vous voulez, la récidive ne concerne pas du tout les crimes graves.
Il avait été condamné 14 fois par un tribunal pour enfants et un tribunal correctionnel, explique Éric Bedos, le procureur de Nice. Le jeune homme avait effectué son dernier séjour en prison à Grasse entre les mois d'octobre 2011 et d'août 2013, avant de bénéficier d'un placement sous bracelet électronique. Ouais, donc, une surveillance qui avait pris moins de 15 jours avant le braquage.
Est-ce qu'on peut parler de laxisme alors qu'il a perdu la vie ? Je viens de l'apprendre, incarcéré par les différentes juridictions.
Il fallait que ce soit des délits assez sérieux.
La justice n'a pas fait preuve de laxisme à partir du moment où on sait qu'il a été incarcéré et qu'il était peut-être sortant de prison à ce moment-là. Non, je voudrais insister quand même sur le fait, effectivement, comme vient de le dire Antoine, qu'effectivement, on n'est pas sur le même plan. Les réformes proposées par Mme Taubira sont des réformes qui touchent la petite délinquance. La fameuse contrainte pénale ne concerne pas la grande criminalité, les homicides ou les vols aggravés. Et sur ce registre-là, effectivement, de la délinquance petite et moyenne, toutes les études internationales, indépendamment de celles qui ont été reflétées par la conférence de consensus, montrent que la case prison n'est pas efficace dans la lutte contre la récidive. C'est la case réinsertion qui est réellement efficace. C'est quelque chose que nous savons, que nous voulons dire avec force et que Mme Taubira veut mettre en œuvre pour cette catégorie de délit, Brice Couturier, pas pour la délinquance dont nous parlions jusqu'à présent dans l'émission. À partir de là, cette réforme est parfaitement légitime, si vous voulez. Et ce n'était pas faire preuve d'angélisme que pour cette catégorie de délits dont je viens de parler, nous réfléchissions aux raisons effectives qui permettent de diminuer la délinquance.
Je vous propose d'écouter Christiane Taubira, justement, c'était lors de l'université d'été du Parti Socialiste le 24 août dernier.
La peine de probation, comme je vous l'ai dit, nous l'appelons, nous, la contrainte pénale. Il s'agit d'une peine au milieu ouvert qui s'ajoute à l'arsenal répressif actuel. C'est donc une peine de grande contrainte, mais qui ne désocialise pas. Et donc qui va incontestablement, comme on a constaté dans les pays qui pratiquent déjà cette peine, va contribuer sérieusement, significativement, à réduire les risques de récidive.
Vous avez apaisé les craintes du ministre de l'Intérieur ?
Moi, le ministre de l'Intérieur ne m'a pas dit qu'il avait des craintes. Alors,
interroger
le président. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que cette réforme pénale, elle est extrêmement importante. D'abord, elle correspond à un engagement du président de la République. Ça n'était pas un engagement confidentiel. Ensuite, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Parce que sinon, on continue exactement comme maintenant.
Voilà, Christiane Taubira. Caroline Fourest.
Oui, je crois vraiment que les termes du débat, moi aussi, ne sont pas ceux de soit l'angélisme, soit le réalisme. En l'occurrence, là, ce qui s'affronte, outre le ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux, ce qui est bien normal et même très sain en réalité, c'est plutôt une vision de la généralité contre une vision de la proportionnalité. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des gens qui veulent juger a priori, se faire magistrat à la place des magistrats et considérer, si on leur demande « Est-ce que vous considérez que les délinquants sont assez condamnés ?» Mais ils ne diront jamais « Oui, ils sont assez condamnés » puisque c'est une telle généralité qui appelle à toujours plus, en réalité, de sanctions. Donc, dans ces cas-là, on n'arrête jamais le populisme. Et en l'occurrence, c'est bien un populisme dont il s'agit. La réforme pénale propose simplement plus de proportionnalité et d'individualité, c'est-à-dire de refaire confiance aux magistrats pour savoir, face à un cas précis, qu'est-ce qui sera le plus efficace pour éviter la récidive. Personne ne veut l'encourager. Tout le monde cherche le meilleur moyen de l'éviter. Mais il y a quand même une donnée qu'il faut aussi intégrer. C'est que tout le monde nous explique en gros qu'on n'est pas assez répressif, mais nos prisons sont pleines. Elles sont pleines à craquer. Est-ce que ce n'est pas non plus une donnée importante de ce problème ?
Je voudrais quand même rappeler que le taux d'emprisonnement en France est beaucoup plus faible que dans la moyenne européenne.
Mais à cause de ça, Brice Couturier, parce qu'il n'y a plus de place.
Oui, évidemment, quand on refuse de construire de nouvelles places en prison, les prisons sont pleines. Mais je voudrais pour juste citer Laurent Bouvet, parce que vous êtes tous ici pour dire qu'il n'y a pas de différence entre la gauche sécuritaire et la gauche angélique. Alors, je ne suis pas un grand politologue, je vais juste citer Laurent Bouvet qui lui dit le contraire dans La Croix il y a très peu de temps, c'était le 15 août 2012. Il y a toujours eu une gauche anti-autoritaire face à une gauche républicaine attachée à l'ordre public. Pour la première, c'est le dominé qui compte avant tout et doit être pris en compte dans la politique publique. Elle rejette la répression au nom de la défense des populations en difficulté et donc excuse, voire justifie, la délinquance. Elle est par ailleurs très soucieuse d'éviter toute stigmatisation. L'autre gauche est plus réaliste sur les questions de sécurité et adopte une position de principe juridique, celle de l'application de la loi dans un état de droit. Donc il y a bien deux gauches.
Alors, Denis Salas, c'est une fois, je voudrais que Denis Salas s'exprime.
Prenons la droite et la gauche. À droite, pendant plusieurs années, le discours sur la sécurité était simple, simpliste, je l'ai appelé populiste à l'époque. La police interpelle, la justice condamne. Point à la ligne. Donc un discours simple qui se prive totalement d'un dialogue avec cette particularité que vient d'évoquer Karine Fraisse à l'égard des auteurs et des victimes et qui se borne à affirmer une pétition de principe simple où chacun a effectivement son rôle et qui fait bon sens auprès de l'opinion publique. La gauche, elle, de son côté, s'est longuement défendue de sa posture d'angélisme qu'on lui a reproché et qui n'a pas trouvé actuellement de doctrine, je dirais, alternative capable de faire face au discours politique sécuritaire fait par la droite. Donc il y a une recherche d'équilibre que traduit bien l'avant-projet qui va être discuté prochainement par le Conseil d'État et passé en Conseil des ministres, entre effectivement une gauche qui cherche à renouer avec le grand discours républicain d'individualisation des peines qui avait été affirmé notamment au début du siècle par des grands juristes et des grands politiques. Et c'est le discours que porte Madame Taubira. Et puis une autre gauche, et une autre, j'y viens Brice, et une autre gauche qui effectivement est beaucoup plus soucieuse de coller un électorat populaire et qui veut au contraire freiner à cet égard. D'où le projet en demi-teinte, l'arbitrage en demi-teinte de Hérault, qui d'un côté refuse l'abolition de la rétention de sûreté, on y reviendra peut-être, qui était quand même un problème considérable, qui refuse de réduire les aménagements de peine, et qui d'un autre côté, effectivement, admet la contrainte pénale, qui est une peine plus douce. Donc on est dans une recherche d'équilibre qui n'est pas à ce jour trouvée entre ces deux gauches.
La contrainte pénale, qui avait été au départ baptisée sous le terme de peine de probation, qui est déjà en place dans plusieurs pays, le Royaume-Uni, la Suède et le Canada. Donc c'est une réponse pénale alternative à l'incarcération, mais il faut bien préciser qu'elle n'est pas déconnectée totalement de l'incarcération, puisque en cas de non-respect de certaines obligations, le juge d'application des peines peut décider d'une incarcération dont la durée ne pourra excéder la moitié de la durée de la contrainte pénale. Caroline Fourest.
Non, mais toujours pour prolonger ce débat sur les deux gauches, entre la gauche angélique et la gauche qui assume le principe d'autorité. Autant je pense que cette division est tout à fait juste sur des sujets comme l'intégrisme, le terrorisme, c'est-à-dire des sujets où il y a positions idéologiques à avoir où il existe effectivement une gauche angélique et une gauche plus républicaine qui assume qu'il y a des problèmes sur la table et qu'il faut les affronter. Autant je pense que ce clivage n'est pas valide sur des questions de justice, justement à cause du principe de proportionnalité, d'individualité des cas et des affaires. Le contexte dont nous parlons du bijoutier à Nice est quand même assez exemplaire. Personne ne soutient à gauche qu'on a le droit de braquer un bijoutier. Il n'y a pas d'angélisme dans cette affaire. La question, c'est de savoir si tirer dans le dos de quelqu'un qui est en train de s'enfuir est un cas juridique au nom de légitime défense. Si on considère que la morale passe devant la justice, l'autodéfense passe devant la légitime défense, nous ne sommes plus du tout dans le même système démocratique.
Antoine Garapon.
Oui, je pense que la sécurité est une question trop importante pour être laissée à l'idéologie. Je prendrai deux exemples. L'exemple de Tony Blair, qui est un homme de gauche et qui opère une véritable révolution que connaissent un nombre grandissant de pays similaires aux nôtres, qui est de distinguer la répression, et je suis personnellement pour la répression pour les crimes graves, une répression intelligente, une répression efficace. La prison n'est pas efficace pour les petits délits, au contraire, contraire, elle est extrêmement délétère. Et nous n'avions et nous avons toujours du mal à France à penser en France à penser les petites peines indépendamment de la prison. L'exemple américain qui a établi des peines automatiques. La peine automatique, c'est le carburant pour faire flamber la population pénale. Et aujourd'hui, les Américains ne s'en sortent plus. Ils ont un taux d'incarcération qui est de 6-7 fois supérieur au nôtre. Et la politique est de fait, et la décrue. Et contrairement à ce que vient de dire...
Et la criminalité aussi est en forte baisse aux États-Unis, puisqu'il y a deux fois moins de crimes qu'il y a 10 ans. Et que la ville de New York est devenue plus sûre que la ville de Marseille. Donc ça a une certaine efficacité.
Oui, mais ce n'est pas la prison, Brice Bouturier. C'est une conjonction de facteurs. Et c'est pour ça que je reviens sur la plus de policiers à Nice, parce que ça me semble extrêmement naïf. Le problème, c'est que l'opinion va se satisfaire de solutions extrêmement naïves et qui ne marchent pas. Ce n'est pas en envoyant 60 ou 100 ou 200 policiers de plus à Nice ou à Marseille. La lutte contre la délinquance est un problème sérieux qui a réuni de la connaissance, qui doit être confié à des professionnels. Et on sait que faire réduire la délinquance...
Écarter la population, quoi. Écarter l'électorat, c'est ça que vous êtes en train de dire.
Non, je veux dire que la délinquance...
Faites attention.
L'expérience de New York, par exemple, est très intéressante. C'est qu'on sait... C'est la conjonction de trois choses. Un facteur démographique, les baby-boomers baissés, un facteur répressif et un facteur de politique sociale ciblée. On sait, on connaît les causes. Bon, et je pense que pour Marseille, il faut, ou pour Nice, il faut des actions combinées, d'infiltration, et de répression, bien sûr, mais ce n'est pas uniquement les peines planchées, c'est une imposture que de faire croire à l'opinion que ça va suffire.
Y compris le face-à-face entre la police et la population. Les zones urbaines prioritaires défendues par Manuel Valls sont des zones d'intervention policière. Donc si vous mettez face à face la population pour faire sauter les points de deal, évidemment, parce que c'est là le but de ces genres d'opérations. Mais si vous mettez face à ça, vous créez de la violence. Et l'intérêt de ces opérations,
c'est pas... Entre les dealers et la police, vous voulez dire
entre la violence et la police, de confrontation entre la population.
Ah non, la population, elle souffre des dealers, elle n'est pas de leur côté.
Elle est au milieu de la situation, vous le savez bien. Elle est au milieu et elle partage la souffrance collective qui se développe. Donc l'important, c'est effectivement, ce n'est pas ce face-à-face mortifère entre une police et la population, c'est d'introduire des médiations sociales, associatives, de quartiers qui permettent d'atténuer cette confrontation afin d'introduire le lien social dans ce face-à-face.
Peut-être pour vous mettre d'accord, encore que ce n'est pas mon rôle ici, hein, vous dites ce que vous voulez, la parole est libre. Est-ce que tout de même il n'y a pas un angélisme tout de même de gauche dans cette volonté de créer cette nouvelle, donc faire cette réforme pénale, hein, avec les moyens? Tout de même, on voit aujourd'hui dans le Figaro qu'un syndicaliste qui est le secrétaire général donc du principal syndicat des services pénitentiaires d'insertion et de probation, qui est tout de même relativement bien placé sans doute pour donner son avis, dit qu'il faudrait recruter au moins 1500 conseillers d'insertion et de probation. Il y en a eu pour l'instant 300 et que du coup le volume tout de même des démarches et des suivis, surtout avec le suivi individualisé, demandant vraiment du personnel, quand on sait dans quel état est le budget de la justice, on peut penser que là, il y a tout de même une sorte d'angélisme, non, à dire, bien sûr, faisons une loi idéale, elle marche aux États-Unis, elle marche en Suède, mais avec quels moyens, si on n'y met pas justement les moyens, Denis Salasco?
La réforme s'accompagne de moyens, justement, c'est un des points forts de la réforme Taubira en termes d'effectifs de conseil d'instruction de probation et de juge d'application des peines. Donc, ce n'est pas un volet qui est oublié par la réforme, fort heureusement. Mais elle demande aussi que ces moyens soient utilisés avec une sorte d'intelligence de la peine. On critique beaucoup la contrainte pénale en la simulant à l'angélisme judiciaire de gauche. Mais en même temps, si vous voulez...
Attendez, qu'est-ce qu'elle propose de plus qu'aux très nombreux dispositifs alternatifs comme le sursis, la mise à l'épreuve et tout ça? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus, la contrainte pénale? Factuellement,
l'idée initiale, qui n'est pas retenue par le projet de loi, c'est de la déconnecter complètement de l'emprisonnement. De faire une pure peine d'obligation qui astreint effectivement l'individu à s'acquitter de ses obligations. Prenons un exemple.
C'est là que ça a fait prenons clash un exemple. Avec tout de même le ministère de l'Intérieur.
Mais il faut prendre un exemple pour que les gens comprennent, parce que sinon on n'arrive pas à saisir. Allez-y. Prenons un exemple. Vous avez des audiences correctionnelles, que nous savons avec Antoine, qui sont consacrées au non-paiement de pension alimentaire. Oui. Le non-paiement de pension alimentaire, c'est 2 ans d'emprisonnement dans les textes. Deux ans d'emprisonnement, c'est prévu par la loi. Donc, est-ce que vous pensez qu'il est intelligent de mettre ces personnes en détention ou de les menacer de prison? L'intérêt, c'est effectivement, au contraire, on peut imaginer en tout cas, une contrainte pénale qui les oblige à payer cette pension alimentaire, les laisser détenteurs de leur travail, en prison et perdant leur travail et leur logement, rappelons-le quand même, afin de pouvoir miser sur leur capacité de payer leurs dettes à la société et puis à leurs obligations contractuelles. Donc là, la contrainte pénale prend tout son sens. Prenons un autre exemple, la délinquance routière, dont les chiffres sont catastrophiques en termes de récidive. On met en prison, mais ça ne sert strictement à rien, les gens continuent. Est-ce que vous ne pensez pas que là, une contrainte pénale, mais imaginée, conçue, localement, expérimentée par les procureurs qui font preuve de... Ce ne serait pas plus utile de faire en sorte que ces délinquants récidivistes de la route, et on sait qu'ils sont très nombreux, leur faire des stages, des cours, des stages dans les hôpitaux,
enfin, ou leur supprimer la voiture peut-être carrément,
ou des confiscations. Mais c'est des solutions. La confiscation des véhicules, ça se pratique d'ailleurs assez fréquemment, mais il faudrait développer ce genre-là. Là, c'est un peu tout ça, la contrainte pénale. Résoudre le problème de ces petits délits, non pas par la prison dont ils sortent au bout de très peu de temps. 60% des personnes incarcérées sortent au bout de 6 mois, je le rappelle. Alors, il faut éviter cette espèce de sortie sèche qui ne donne rien, mais nourrir la prison, nourrir plutôt la peine d'une intelligence de contenu qui mérite quand même là une réflexion supplémentaire au terme des politiques pénales et de la jurisprudence.
Caroline Fourest.
Mais voilà pourquoi c'est si passionnant de rappeler les contextes. Parce qu'évidemment, si on pense à des cas de récidive à propos de braqueurs, on n'a pas du tout le même regard qu'à propos de délits routiers ou de pensions alimentaires. Et la position sur le bracelet électronique, puisque l'idée aussi de la réforme, c'est de trouver des peines alternatives, à la fois des sorties progressives et pas des sorties sèches de prison, d'éviter des emprisonnements inutiles et de trouver des peines alternatives. Le bracelet électronique, qui est si décrié comme un acte d'angélisme, on voit bien que dans le cas du bijoutier de Nice, qui n'a pas été incarcéré, ça semble réjouir ses supporters qu'on ait trouvé une solution alternative. Donc c'est bien une question de contexte, et c'est pas donc un angélisme de principe. Par contre, c'est vrai qu'il y a un optimisme sur les moyens, parce que pour le coup... Tous ces aménagements, s'ils ne sont pas suivis de personnel extrêmement formé, extrêmement attentif, créent des failles dans le dispositif de suivi, beaucoup plus sûrement que l'incarcération.
C'est encore ce que dit donc le syndicaliste, là, qui est donc le Olivier Caquineau, dans le Figaro, le secrétaire général de la SNEPA-FSU, principal syndicat des services pénitentiaires et d'insertion et de probation. Il n'est pas contre ces questions-là, mais il dit voilà, on va vraiment manquer de moyens. Il demande à la ministre un plan pluriannuel pour essayer de recruter ces 1500 personnes au moins sur 4 ans.
L'individualisation demande des moyens. Le bracelet électronique demande aussi un suivi dans chaque situation individuelle. Ce n'est pas faire preuve d'angélisme de mettre un bracelet électronique. Il faut l'avoir porté un certain nombre de mois pour le comprendre. C'est une contrainte considérable que les gens supportent très difficilement et pendant un temps relativement limité. On l'a expérimenté, on le sait maintenant. Donc il faut aussi considérer tout cela.
Alors cela dit, bon, je vois bien que vous voulez réfuter les termes du débat qu'a lancé Brice Couturier à 8h15, je vais quand même faire son avocat, camarade Couturier. Et on n'a quand même pas été totalement aveugle ni sourd, Antoine Garapon et Denis Salas. Il y a bien un débat, il y a bien tout de même une controverse entre justement un ministre de gauche, Manuel Valls, et une ministre de gauche, Christiane Taubira. Elle porte bien sûr quand même des termes. Alors est-ce qu'il faut les affubler de l'angélisme contre le réalisme ? Peut-être pas, je ne sais pas. Mais il y a bien quand même un conflit, puisqu'il y a des intérêts différents. Les intérêts de la police d'un côté, et de la justice de l'autre.
Et puis il y a des idéologues et des élus aussi.
Je
trouve que cette dichotomie...
Ça a eu lieu quand même, sous les regards des caméras, des micros.
C'est une constante d'ailleurs de la vie politique française, et je trouve que c'est personnellement, je la vis comme une faiblesse de notre culture politique. Parce que précisément, s'il y a un domaine dans lequel nous devrions nous réunir sur les évidences, et encore une fois sur les évidences chiffrées, établies, expérimentées, c'est bien le domaine de la justice et le domaine de la réinsertion. On sait un chiffre parmi tant d'autres.
Oui, mais la politique recouvre tout ça. Le Parisien d'aujourd'hui nous dit au fond que Valls étant le ministre, de gauche préféré des Français, est vécu et perçu comme en plus sans doute un bon rempart anti-Front National. Donc il faut bien qu'il donne des gages au sentiment d'insécurité que ressentent les gens par rapport à une politique de gauche, mais qui ne serait pas dite angélique.
10%.
Donc, la justice,
je ne peux pas répondre sur les termes politiques, c'est pas ma catégorie de pensée, pas ici, encore moins en tant que magistrat. Mais par exemple, un chiffre, 10% des détenus sortent, ils sont sans domicile fixe. Donc ça veut dire que 10% des détenus sortent, ils n'ont pas de logement. Que fait quelqu'un qui n'a pas de logement ? Nous savons qu'un nombre important de détenus sont dans un état psychiatrique extrêmement détérioré, qu'il y a des addictions à l'alcool et bien quoi, extrêmement importantes, surreprésentées, le taux de suicide est 5 fois supérieur, etc. Bref, en d'autres termes, la prison est une ressource chère et rare, et dont il faut garder la rareté pour qu'elle soit plus efficace. Nous avons 135% de suroccupation dans une maison d'arrêt, c'est-à-dire la maison qui accueille les personnes qui viennent d'être mises en détention. C'est extrêmement difficile à vivre pour tous, pour les détenus et pour les personnels, comme vous le rappeliez. Donc moi, je rêve d'une république qui se réunirait sur la raison et non pas sur les passions.
Sur un total de 251 prisons, 124 établissements sont en situation de surpopulation carcérale.
Et dans un état pitoyable, comme l'ont rappelé plusieurs rapports parlementaires successifs, de droite et de gauche confondus d'ailleurs.
Une courte question, Caroline Forest, on va arriver presque au bout.
Et mais juste un point aussi qui peut peut-être réconcilier tous les Républicains. Dans ces prisons surpeuplées, on sait aussi que c'est le lieu de recrutement, de prosélytisme, d'endurcissement pour les intégristes phénoménal. C'est-à-dire que vous avez des petits délinquants, si vous les mettez directement dans les bras de gens qui peuvent les transformer en gros délinquants et en intégristes, à la sortie, ils seront pires qu'en entrant.
Tout petit, Brice Couturier.
Écoutez, moi, juste et puis un petit mot de conclusion, voilà. Mais je voudrais dire que la meilleure façon de mettre fin au populisme pénal dont vous semblez tous regretter ici qu'elle ait contaminé aussi la gauche, ça serait de faire baisser la délinquance. Alors, je rappelle que les chiffres sont très préoccupants, que les cambriolages ont progressé de 13% en un an, que les vols à la tire ont progressé de 13 à 35% selon qu'on prenne les chiffres de la police ou de la gendarmerie, et que les vols avec violence ont progressé aussi.
Moi, je trouve que le débat interne à la gauche et interne à la gauche de gouvernement actuellement n'est pas un débat qui est, je dirais, qu'il faut regretter particulièrement. Je pense au contraire qu'il est bon, parce que Valls et Taubira sont face à deux opinions publiques différentes. Une opinion publique, je dirais, de policiers internes à leur ministère, et une opinion publique de magistrats. Donc il y a deux opinions publiques et deux doctrines. Du côté de Valls, on est plutôt du côté de la dissuasion. On montre sa force pour faire reculer la délinquance. Du côté de Taubira, on est plutôt du côté de la réhabilitation, de la réinsertion. Et du côté de l'un et l'autre bord, se réclame de l'efficacité dans la peine. Donc je pense qu'il est bon que ce débat existe. Il prépare plus tard un débat plus large qui aura lieu au Parlement et qui permettra peut-être de trouver une solution partagée.
Vous noterez qu'on a repoussé tout de même les échéances de ce débat à après les élections municipales, ce qui là aussi tout de même... désolé Antoine Garapon,
On est bien d'accord, je crois.
On s'en méfie un peu quand même de ce projet.
But de toute politique...
Sur ses répercussions électorales.
Le but de la contrainte pénale est bien de faire baisser la délinquance en faisant baisser la récidive, une sortie sèche de prison est plus récidivante qu'une sortie préparée.
Merci messieurs, restez avec nous dans un instant. Ce qui nous arrive sur la toile en musique et en culture, entre autres. Merci donc Antoine Garapon. Le bien commun de jeudi prochain, vous savez sur quoi il porte ou pas encore?
Eh bien justement, il va porter sur la contrainte pénale et on prendra le temps pour expliquer.
On continuera. Vous avez fait une très bonne émission sur les drones jeudi dernier, je vais vous dire. C'est passionnant. Denis Salas, merci à vous. Merci. Je rappelle entre autres la volonté de punir et c'est sur le populisme pénal en 2005 chez Pluriel. On a retrouvé des inédits de Jacques Brel dans les archives de l'INA. Extrait de l'intégrale Brel qui est sorti hier chez Barclay, place de la Contrescarpe.
Contrescarpe, les clochards dansent en rond. Place de la contrescarpe, ils claquent les talons. Ils ont les pieds gelés, les mains dans leurs poches trouées. Place de la contrescarpe, ils dansent tous en rond. L'été, quatre arbres verts, quatre arbres noirs l'hiver. Tout autour des bistrots, bière fraîche ou vin chaud. Allez le givre sur le toit des maisons et tourne le noir borgne, l'arabe et le breton, et tourne le noir borgne, l'arabe et le breton. Place de la contrescarpe, ils dansent tous en rond. Place de la contrescarpe, les clochards dansent en rond. Place de la contrescarpe, ils claquent les talons. Ils ont les pieds chelés, les mains dans leurs poches trouées. Place de la contrescarpe, ils dansent tous en rond. La musique du vent, ce soir les fait danser. Et les derniers passants passent à pas presser. Puis le car de la police, sans sirène ni klaxon, emballe sur leur clochard, clochard, clocheton. Privilégiés les pauvres, passons la nuit au violon. Mais place de la contre-escarpe, d'autres clochards dorment en rond. Mais place de la contre-escarpe, d'autres clochards dorment en rond.
Voilà un titre de 1965 inédit en CD, épuisé donc dans les archives. Ina, c'est l'intégrale Braille. Suivre l'étoile, sorti hier chez Barclay.